Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec une formation musicale qui est ici pour nous parler, enfin pour nous interpréter des musiques pour un monde contemporain. Donc il y aura 3 dates pour ce week-end à partir de jeudi même. Et puis on va faire le tour de la table pour présenter chaque musicien et musicienne. À commencer par Clémence Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Donc toi, tu es interprète en flûte traversière.
Oui, c'est ça.
Ensuite, Benjamin Rabaté, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es au saxophone soprano.
Oui, tout à fait.
Ensuite, Axel Izikel.
Bonjour.
Voilà, à la clarinette.
Oui.
Bérangère Bréja.
Bonjour.
Donc pour le corps d'harmonie.
Oui, tout à fait.
Et puis, pour finir, Nicolas Mizel.
Bonjour.
Au saxophone baryton.
Exactement.
Tu as pris contact avec nous pour nous annoncer donc 3 dates à venir, à commencer par jeudi 28, ce soir. Ça se passera à la Fondation Robert Ardouvin, à Vercheny-le-Haut.
Exactement.
À 18h. Oui. Les 2 autres soirées seront celles de vendredi 1er mars à l'espace social du Diwa, à partir de 20h30.
À 20h30, dans la salle communautaire, oui.
Et pour finir, à Barnave, à l'Aubergerie, toujours à 18h aussi, au restaurant L'Aubergerie.
Exactement, ça sera un concert-repas, mais il sera possible de faire que le concert ou que le repas. Et si vous souhaitez rester, je crois qu'il faut réserver auprès de l'Aubergerie. Voilà.
Cette passion pour la musique vous a rassemblé ?
Oui, elle nous a rassemblés à Poitiers. On a été étudiants tous ensemble pendant quelques années à Poitiers pour faire nos études supérieures en musique. Et maintenant, on a presque tous fini à Poitiers et on s'est un peu éparpillés dans l'Europe entière. Et comme c'est difficile de se revoir, on se garde une semaine par an à Die, qui est notre centre de rencontres. Et on en profite pour jouer ensemble et donner des concerts itinérants dans le Diwa.
Vous étiez déjà venu les années précédentes avec des formations plus grandes ou c'est une... je confonds ?
Alors cette formation était là l'année dernière à la même période. On a fait une résidence de musique contemporaine sur le même sujet donc que cette année. On a souhaité renouveler face au succès qu'on a eu et le plaisir qu'on a eu à le faire. Voilà. Mais après Alter Musica, donc l'association dont je m'occupe, que nous avons créée, fait des concerts toute l'année avec des ensembles différents. À l'automne, on a eu un trio de musique ancienne, donc instruments à cordes. Il y a aussi l'Octuor Cosmopolite, qui est bien connu dans le coin. Le quintet, il y a le conservatoire de Grenoble qui est venu l'an dernier également. Des soirées piano qu'on fait pendant l'été. Donc voilà, une programmation diverse.
Le premier morceau que vous nous avez interprété, de quel compositeur ?
Alors on a souhaité ouvrir l'enregistrement avec le premier mouvement, la première des trois pièces de Jacques Ibert, qu'il a composé pour le quintet avant, à la fin du XXe siècle. Voilà, c'est un compositeur français un peu néoclassique, néo-romantique.
Le monde contemporain, pour vous tous, débute à quelle période, d'après vous ?
Alors, c'est très compliqué suivant les arts. En musique, on a tendance à parler de musique contemporaine à partir de la fin du XXe. Et encore, c'est presque plus moderne, ou en tout cas, oui, musique contemporaine, plutôt à partir du XXIe siècle même. Et pour cette année, on a souhaité mettre en relation la musique du XXe ou la musique contemporaine avec les compositeurs qui ont vécu dans les quatre derniers siècles et qui se sont tous inscrits par rapport à leurs prédécesseurs, donc d'où cette thématique annuelle de « un certain classicisme ».
À vous entendre tout à l'heure, ce sont des compositions qui étaient courantes au début du XXe siècle. J'avais le sentiment d'écouter parfois des compositions d'Eric Satie. Est-ce qu'il y avait toute une osmose musicale à l'époque qui émergeait ?
Oui, je crois. J'ai l'impression aussi que ces trois pièces d'Ibert se rapprochent plutôt de la musique de Satie, de ce mouvement de compositeurs du milieu du XXe en France, oui.
En parlant de Satie, ça vous est arrivé d'interpréter de la musique d'ameublement ? Il y en a une qui est « Tenture pour cabinet de préfet ».
C'est ça, musique en forme de poire, etc. Oui.
En fait, ce sont des courts morceaux qui sont répétés à l'infini,
oui,
donc, qui meublaient une ambiance dans des soirées de certaines sociétés.
Oui, oui, c'est ça, on appelle ça un peu vulgairement de la musique d'ascenseur aussi. Ça peut nous arriver de temps en temps, oui, c'est pas le cœur de notre métier.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans cette musique ? Il y a eu des bouleversements au niveau de la musique à cette époque-là ?
Oui, c'est intéressant d'observer le travail des compositeurs, certains qui se sont évertués à vouloir créer un style qui leur était propre, à vouloir démolir ce qui a été fait avant pour apporter, construire sur une table rase, comme certains comme Pierre Boulez, et d'autres... Pierre Boulez, qui était la thématique de l'année dernière. Cette année, donc, c'est des compositeurs qui se sont inscrits par rapport à leurs prédécesseurs et qui ont souhaité renouveler ou prendre dans le passé pour composer dans leur temps présent.
Quand vous dites inscrits par rapport à leurs prédécesseurs,
oui.
Vous voulez signifier quoi ?
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté en bloc ce qui s'est fait avant. Il y a une forme de recyclage, entre guillemets, c'est pas très beau, du matériau musical et de la composition en elle-même, avec des formes plutôt classiques, comme la pièce de Ibert. Là, c'est trois pièces, trois mouvements, comme trois mouvements de sonate. C'est des formes très classiques. Il y a aussi des compositeurs au même moment que lui qui ont fait des choses complètement neuves, qui n'ont passé que leur temps à inventer de nouvelles formes et de nouveaux sons, de nouvelles textures, des nouvelles... interaction d'instruments. Là, c'est un quintet classique qui existait depuis très longtemps et qui est encore utilisé par certains compositeurs aujourd'hui.
Vous tous, la musique vous a appris très tôt ?
Oui, je crois. Je vais laisser la parole.
Je crois qu'on a des parcours assez différents, chacun. Pour ma part, je suis tombé tout dedans quand j'étais tout petit, à 6 ans et demi, et même avant ça, dans une famille, non pas de musiciens, mais de néophytes et de gens qui adoraient écouter de la musique. Voilà, après, pour les autres.
Oui, bah moi, c'est un peu la même chose. J'ai commencé tout petit, puis les choses se sont logiquement développées vers une professionnalisation de la musique. Au moment où il a fallu se poser la question d'une orientation après le bac.
Pour moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout musicienne. Mes parents ont vu que j'adorais chanter, alors du coup, ils m'ont inscrite dans une école de musique où j'ai découvert un peu tous les instruments et j'ai choisi pas très très tôt, mais vers 8 ans et demi, 9 ans, je pense.
Clémence.
Si, pour moi, c'est un petit peu la même chose qu'Axel. J'ai commencé assez tôt et puis pareil, quand il a fallu choisir une voie professionnelle, ça s'est naturellement tourné vers la musique.
De quelle durée sont les études pour être musicien professionnel dans par certains conservatoires ou d'autres types de formations ?
Ça va dépendre du trajet en fait de chacun. Soit on a un début de la musique dans un conservatoire, un gros conservatoire de région. Et à ce moment-là, la durée moyenne des études va se situer autour de 12 ans, au-delà desquels on va rentrer dans un cycle professionnel comme celui que nous venons juste de terminer. Donc voilà, pour avoir en gros un cycle d'études entier jusqu'à la professionnalisation, on a entre 12 et 15 ans. Après, en fonction des autres chemins qui peuvent arriver, des plus petites associations, de plus petites écoles de musique, le chemin peut être un petit peu plus long, un petit peu plus tortueux, avec plus de professeurs, d'autres éléments qui vont un petit peu jalonner le parcours. Et puis enfin, il y a les personnes qui sont tentées par la professionnalisation qui va encore plus loin. Par exemple, Nicolas pourrait nous en dire un petit peu plus. Il est en master à Helsinki en ce moment. Et donc, voilà, on a des études aussi de musique qui peuvent se professionnaliser et aller encore plus loin.
Oui, c'est ça. On peut faire le choix en fait de s'arrêter à différents niveaux suivant les ambitions un petit peu qu'on a ou le milieu dans lequel on aimerait travailler. Si on souhaite être enseignant dans une école de musique ou être intermittent uniquement, être sur scène uniquement, ou alors continuer, pousser au plus loin possible comme j'essaye de faire en ce moment en partant poursuivre mes études en Finlande pour 2 années avant de revenir et exercer en France, enseigner. Voilà.
Vous abordez toutes les musiques dans cette formation ?
Oui, dans ce cas-là, dans ces concerts qu'on va donner, on va jouer de la musique du 18e, 19e, 20e et 21e siècle. Donc c'est un plaisir de lier tous ces compositeurs-là, toutes ces œuvres, et de leur trouver une cohérence dans leur interprétation et dans leur agencement, dans un programme, dans un même concert. C'est un peu compliqué parfois, en tant que public, d'écouter une pièce contemporaine à côté d'une pièce baroque. Mais on va tâcher d'articuler ça correctement et de rendre ça intéressant. Et oui, voilà.
Quels sont les compositeurs du 21e siècle, justement, que vous interpréterez ?
Alors, les compositeurs du 21e siècle, il y a Jörg Winman, qui a écrit donc cette fantaisie pour clarinette que jouera Axel dans ses 3 concerts.
Oui, tout à fait. Donc, Winman, c'est un clarinettiste qui a écrit cette pièce pour clarinette seule, donc sur ce 21e siècle. Et donc, cette pièce, elle a la particularité d'utiliser un langage pas si contemporain. Finalement, quand on écoute une musique plus ancienne comme celle de Pierre Boulez, qui date pourtant maintenant d'il y a 50 ans, elle paraît plus moderne que la musique de Winman. Il est plus dans la continuité de ce qui s'est fait, donc ce qui rejoint notre grand thème, que dans la rupture.
Les sonorités des instruments, vous préférez celle de l'acoustique qu'à celle amplifiée ?
Oui, alors les instruments que nous jouons ici sont des instruments qui sont classé dans la catégorie instruments d'orchestre, donc ils sont joués en orchestre acoustiquement. Et donc cette formation du quintet, par exemple, et toute la musique de chambre avec des instruments d'orchestre est jouée de manière générale sans amplification dans des salles de concert qui rendent une acoustique suffisante sans avoir besoin de les amplifier.
D'ailleurs, au niveau de DI, puisque c'est la deuxième année, d'après vous, quelle serait la salle la plus adaptée à cette acoustique ?
Alors, j'ose espérer que la salle dans laquelle on va jouer vendredi soir à DI sera très adaptée, je le crois. C'est la salle communautaire de l'ESCDD. Je pense que le théâtre, par exemple, a une acoustique vraiment neutre également. Mais on a eu l'occasion d'essayer l'an dernier le temple aussi à DI et d'autres salles. Le temple de Poyol sonne très bien aussi. Et souvent, les architectures religieuses mettent vraiment en valeur la musique classique également. Oui.
D'ailleurs, il y a eu des concerts organisés à la cathédrale à DI l'année dernière. Hein. Mm-hmm. C'était Souffle Continu, c'était une expérimentation avec des musiciens d'électroacoustique ou de création contemporaine. Oui. Mm-hmm. Et l'impression, c'est qu'il n'y a pas d'attaque au niveau sonore de la note.
Ah oui, ça peut être.
C'est surtout une réverbération et c'est une succession de réverbérations. Ça, c'est un effet qui est recherché aussi pour vous.
Oui, certains compositeurs peuvent demander de jouer leur salle uniquement dans une pièce avec une réverbération importante, parce qu'ils ont conçu la pièce en tant comme ça, de façon à ce que le son qui suit un son qui précède puisse se tuiler. Donc le second son va couvrir celui de le premier pour créer une sorte d'harmonie grâce à la réverbération de la salle. Et je pense que c'était un peu le but avec la cathédrale et ce projet-là. C'était une sorte d'empilement des sons.
Donc vous aviez cité l'auteur Jacques Ibert, le premier auteur. Le second compositeur que vous allez interpréter sera lequel ?
Alors nous avons choisi de jouer pour, à la fin de l'interview, le quintet à vent de Paul Tafanel, qui est un flûtiste français du 19e. C'est un quintet absolument romantique par excellence, qui s'inscrit dans toute cette grande vague européenne de la musique classique.
Par rapport à vous voir jouer, il y a vraiment nécessité d'avoir ce pupitre devant vous avec les partitions, ou il y a quoi ? Qu'est-ce qui vous tient avec ces partitions ?
En fonction des musiciens qu'on va trouver en face de nous et de leur parcours musical d'apprentissage aussi, la partition se trouve être un outil assez utile pour notre mémoire. En fait, la plupart du temps, cette partition, elle n'est qu'un aide-mémoire d'une musique qu'on a travaillée et tellement répétée qu'on pourrait presque s'en passer. Sauf que le cerveau est une petite bête assez maligne, mais des fois, elle nous fait un peu défaut. Voilà, c'est... Dans la plupart des temps, on essaye de faire en sorte que le pupitre ne soit pas une sorte de barrière entre nous et le public, mais qu'on arrive quand même à transmettre des émotions, déjà entre nous et puis aussi avec le public. Donc ça a cet effet un peu de mémoire. Voilà.
Oui, c'est aussi le principe d'une résidence, c'est-à-dire qu'on a découvert les partitions avant-hier et on a toute la semaine pour les travailler ensemble. Donc on a ingurgité des centaines et des centaines de notes en 3 jours et on ne peut pas toutes les mémoriser, mémoriser les dynamiques, la hauteur des notes, les nuances, qui joue quand avec qui, les tempos. Donc on est obligé de garder ces pupitres dans ce cadre-là.
Et vous y mettez des annotations aussi ?
Oui, c'est à ça que servent les répétitions, c'est à fixer des choses sur le papier. Ici un peu plus vite, ici un peu moins fort, ici attention de jouer avec telle personne parce qu'on joue la même chose. Et donc c'est vraiment un aide-mémoire, oui.
J'ai entendu récemment quelqu'un dire que la musique d'aujourd'hui est plus pauvre que celle d'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, au point que vous utilisiez justement des compositions d'aujourd'hui contemporaines ?
La musique d'aujourd'hui, c'est un terme un peu compliqué parce qu'on inclut, on inclut toutes sortes de choses. Nous, c'est notre domaine en tant qu'interprète, c'est la musique classique ou savante. Et dire qu'elle est plus pauvre, je ne pense pas, il y a peut-être une mini crise, un mini égarement actuellement avec la musique électronique. Il y a de plus en plus de pièces que de musique électronique ou de musique acoustique accompagnée d'électronique, ou des compositeurs qui veulent absolument mettre de côté l'électronique parce qu'ils ne sont pas intéressés par ça. Donc non, je ne sais pas, plus pauvre... Peut-être petite crise maintenant, mais on va en sortir rapidement, je pense.
Ce qui est assez amusant du point de vue de la composition et notamment de la différence qu'on peut faire entre la musique dite savante et la musique dite populaire, c'est qu'on va avoir tendance à critiquer une œuvre qui sera composée sur, mettons, un enchaînement de 4 accords, comme on peut trouver assez souvent en variété. Mais... De la même manière, dans la musique dite savante, chez des compositeurs comme Reich, comme Cage, on va trouver un courant de musique minimaliste qui va se concentrer sur des éléments extrêmement répétitifs, des petits éléments très répétitifs. Et on pourrait dire au final que la construction de cette musique-là est aussi très pauvre. Donc au final, il n'y a pas de musique pauvre ou de musique... vraiment riche. C'est le procédé et la volonté de la composition qui font que l'œuvre est intéressante ou non.
Je voudrais juste, pour compléter les propos, signifier qu'il faudrait aussi laisser le temps au temps pour faire le tri entre les bonnes compositions et les moins bonnes. Les compositeurs ont tous été contemporains d'une époque. Nous n'avons retenu que les meilleurs d'entre eux, les meilleures pièces. Et il me semble qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour juger de la pauvreté ou de la richesse des compositions. les générations suivantes jugeront en leur temps de ce qui est riche ou non aujourd'hui. Et il faut, je pense, faire un peu confiance aux compositeurs actuels.
La musique minimaliste, à mon sens, par exemple celle de Steve Reich, on peut déduire aussi qu'il y a la part de l'auditeur qui complète cette création musicale, puisque ce sont des notes répétitives et qui interagissent entre elles pour amener des nouvelles harmonies. Est-ce que cette harmonie, est-ce qu'elle est perceptible par tous? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une part de l'auditeur dans cette création.
Complètement, c'est le bon exemple de 4 minutes 33, si je ne me trompe pas, qui est une pièce composée sur du silence. Donc le chef donne le départ à tout son orchestre, le premier violon suit, et tout l'orchestre reste en situation de jeu, en silence complet, pendant 4 minutes 33. Et c'est la musique que crée le public qui fait l'œuvre. Et je trouve ça assez incroyable. Au final, dans ce genre de musique, qui est une musique assez organique, on s'adresse vraiment au cerveau et au cœur de l'auditeur. On s'adresse tout de suite à ce qui fait vraiment son être profond. Et du coup, il y a cet échange entre le musicien et le public qui est vraiment très fort. On le voit souvent en musique contemporaine, qui utilise de plus en plus de modes de jeu physiques aussi, théâtraux, qui permettent un lien avec le public qui est vraiment différent. Un bon musicien contemporain, c'est aussi un musicien qui saura être sur scène d'une manière extrêmement posée et présente.
Oui, c'est très intéressant de regarder que cette pièce composée pour le silence vise à mettre en valeur qu'il n'existe pas, puisque interprétée dans une salle de 2000 personnes ou même de 3 personnes, il y aura toujours un éternuement, un raclement de gorge, un truc qui craque quelque part. Et donc ce silence n'existe qu'à un seul endroit sur le monde, ça se passe à Paris, dans l'IRCAM et la chambre anéchoïque, où les murs sont recouverts d'une texture spéciale qui fait que le son ne rebondit jamais. Donc c'est la salle la plus pure du monde acoustiquement.
Vous y êtes allé vous-même ?
Là, ça n'est pas visitable.
Ah.
Oui.
Il paraîtrait que dans ce type de salle, on se sent pas très à l'aise par rapport à l'acoustique.
Je pense que ça doit être effectivement très perturbant pour le cerveau de n'avoir aucune réverbération du son, oui.
Eh bien, nous allons passer à ce deuxième morceau, donc.
Oui.
Et je veux vous dire une bonne soirée à vous tous.
Oui, merci beaucoup pour votre invitation. On était très heureux de venir ici. Et donc l'année va se poursuivre après la saison culturelle d'Alter Musica. C'est notre concert d'ouverture ce soir à Vercheny. Et vont s'en suivre donc une saison entière de concerts. Je pense que ça sera 12 concerts répartis sur l'année, que j'espère divers et variés comme l'année passée. Voilà.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, à bientôt.
Juste une chose, Musica, vous avez un site ou un blog internet ?
Alors, pas encore, on a une page Facebook pour l'instant que vous trouverez très facilement, association Alter Musica, voilà.
Très bien.
Pour suivre nos activités de concerts itinérants dans le Diwa, concerts gratuits et itinérants, joués par des musiciens bénévoles, tous issus de la jeune génération, voilà.
Eh bien, bonne soirée.
Bonne soirée.